Faites attention. Les filles de Jérusalem, c'est pas Israël. Les filles de Jérusalem, c'est les filiales. Okay? C'est ceux qui ont entendu ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est les nations, les filles de Jérusalem. C'est pas les Juifs. Enfin, les Juifs, les Hébreux. Est-ce que c'est clair? Alors, elle s'adresse aux filles de Jérusalem, qui est une expression qui... Ça veut dire ceux qui se reconnaissent, qui reconnaissent leur source de vérité à Jérusalem, mais c'est les goïmes, c'est pas Israël, les filles de Jérusalem. La bien-aimée, l'unique parmi toutes les filles, c'est-à-dire parmi toutes les sociétés, en relation d'alliance, d'alliance dans le sens conjugal, dans le sens que M. Neher donne à ce thème dans son enseignement, lorsqu'il parle de la relation prophétique, eh bien, elle dit d'abord à toutes les filles de Jérusalem, voilà quel est mon problème. J'ai connu cela, et j'espère cela, et j'attends cela. Et parce que j'ai connu cela, je sais que c'est vrai. Et cette, j'en profite pour réanalyser ce qu'il y a comme dimension de certitude dans la foi hébraïque. Le terme de foi véhicule l'incertitude par rapport à l'expérience expérimentale de certitude. Mais il y a dans la foi hébraïque une dimension de certitude absolue. Parce qu'il y a eu événement. C'est ce que je dis souvent, mais peut-être qu'il faudrait intensifier un terme plus profond que mémoire. C'est une mémoire éclairée par la connaissance. Si nous n'avions pas cette étude minutieuse de notre charte d'identité, de notre carte d'identité qu'est la Bible nous raconte notre histoire, nous ne saurions pas comment éclairer notre mémoire. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la mystique? C'est une mémoire sans mémoire. Et j'ai souvent l'habitude de dire ceci. L'objet de l'étude du texte biblique dans la tradition juive a pour objet de transformer la mémoire en savoir. Mais il faut la base de la mémoire pour que le savoir soit assuré en expérience, expérimentalement. Sinon, il s'agit d'hypothèses intellectuelles. Nous ne sommes pas du tout en philosophie déiste qui aurait une dimension psychomystique, l'amour de Dieu. Il s'agit de la relation à un événement historique, de relation entre le Créateur et son monde au Sinaï à travers Israël et l'expérience illustrative, la dogma, qu'avait dit Rachid dans son introduction, l'illustration, c'est l'amour de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme lorsque cet amour est vrai. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas, encore une fois, un récit amoureux sur lequel on projette une projection mystique. Ce n'est pas un récit mystique qui s'exprime dans le langage de l'amour humain, c'est la même chose. Mais l'amour de l'homme et de la femme vrai, c'est la même chose au niveau de l'existence individuelle que l'amour entre le Créateur et sa créature. Et c'est pourquoi les prophètes emploient ce langage. Lorsque Dieu parle à Israël, donc surtout les prophètes, il lui parle comme un mari parle à sa femme, et lorsqu'Israël parle à Dieu, elle parle comme la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, comme une femme parle à son mari. Et donc, premièrement, voilà le message. Tout chez Hachirim, c'est ça. Elle, l'Assemblée d'Israël, a à dire aux filles de Jérusalem, c'est-à-dire à toutes les nations du monde, Ishakini Inirhidopi. Et après, elle s'adresse à Dieu directement, face à face, en lui disant « Kitovim dodecha miyai » car voilà ce que je sais moi entre nous et qu'elles ne savent pas. « Dodecha » ton amour direct, concret, est meilleur que la sagesse à travers, que la sagesse que donne le vin, que la joie que donne le vin, que ce « ertzat » comment dire, substitue par la connaissance. La réalité concrète dont j'ai connaissance est plus que la connaissance de cette réalité. Alors nous allons voir comment le grand devinant en parle, mais d'abord je traduis le troisième verset auquel je voudrais arriver rapidement. Les réars, et nous demanderons aussi l'enseignement de Rabbi Akiva là-dessus, les réars, shemanecha tovim, en ce qui concerne le parfum, en tant que parfum, tes huiles sont bonnes, je te cite après, shemen tuvak shemecha, ton nom est comme l'huile dont on se... pas loin exactement, mais comme tu as compris, alkel, et c'est pourquoi, alamota hevucha, et c'est pourquoi les jeunes femmes, ces filles de Jérusalem, les nations dont, à qui je parle et dont je parle, t'aiment aussi. Voilà quel est le thème. C'est ceci. Comme si elle dit à lui, j'en parle aussi de ce qui s'est passé entre nous, j'en parle aussi aux autres. Parce qu'elles connaissent aussi un peu cela. Mais à la manière dont celui qui ne dispose pas de l'huile parfumée peut quand même de loin respirer l'odeur du parfum de l'huile. L'huile, c'est ton nom pour moi. Mais le parfum de cette huile, ça va jusqu'aux autres. Alors je peux parler par allusion aux autres. Vous voyez pourquoi il y a ce changement de personne si fréquent. On parle à la troisième personne, Ishakeni, Minishikotpiou, et puis aparté, Kitovim, Dodecha, Miyarim, Lereach, Emanecha, Tovim, Alken, Alamod Aemir. Vous voyez, c'est clair. Alors j'espère qu'on arrivera à boucler tout cela aujourd'hui. À partir de demain, nous étudierons le verset 7 du premier chapitre, et je vous propose ce qui m'a été demandé, d'étudier après le verset « Anitzanim Nurubaharet » qui est dans le premier chapitre. Je vous donnerai le verset tout à l'heure. Et puis le verset 1 et 2 du chapitre 6 « Ana Halardodech » et « Dodi Yarad Legano » si vous voulez le noter pour le préparer pour ceux qui peuvent le préparer. Alors, prenons tout de suite donc cette page. Vous la prenez au verset 2. « Bet Shakenin Mishikut Pi » Alors, je lis et je traduis simultanément. Qu'il me baise le baiser de sa bouche, qui tobin dodecha miyaïn, car ton amour, en hébreu c'est au pluriel, tes amours, tes manières de vivre. Les dodim, aït dodim, c'est ibnahagout, c'est la hava. Ça veut dire les manières d'aimer. À la limite, peut-être le mot le plus propre qu'on pourrait employer dans ce sujet si délicat, c'est les caresses. Ça s'appelle les dodim. Je voudrais vous citer un enseignement du Baal Shem Tov à propos d'un des versets de Shir HaShirim. Il y a un verset du Shir HaShirim qui dit « Hadashim gam yeshanim dodi safanti lach ». Le verset dit ceci, « Les choses anciennes », d'abord la traduction littérale, pardon, « Hadashim » c'est les choses nouvelles. « Les choses nouvelles, Hadashim gam yeshanim, et aussi les choses anciennes, dodi safanti lach. Mon bien-aimé, c'est pour toi que je les ai cachées. » Et ça se relie à ce que je disais tout à l'heure, l'amour intime, ça reste dans l'intimité. Tsafantila, je les ai cachés. J'en ai parlé à personne. Du point de vue du pshat, du Shir HaShirim, de ce texte, ça veut dire les anciennes, les nouvelles manières d'aimer, comme les anciennes manières d'aimer, c'est à toi seul que je les ai réservées. Okay? Et le Baal Shem Tov a une fois expliqué ce verset à ses élèves de la manière suivante. Les nouvelles explications de la Torah, comme les anciennes, les chidushim, pas les chadashim, les nouvelles explications de la Torah, comme les anciennes, Dodit Safantila, je les ai gardées pour Dieu seul. Alors ses élèves lui ont dit, à nous, tu ne nous as jamais parlé. Il a dit oui, quand ça déborde. Vous voyez comment se relie le problème. L'œuvre, c'est du Baal Shem Tov. Alors, je reviens donc au Gaon de Vilna. On fait des mariages. Si les chassidim entendent et qu'on lit le Gaon de Vilna au Baal Shem Tov, et si les mitnagdim entendent et qu'on lit le Baal Shem Tov au Gaon de Vilna, ils se diraient, bon, ça c'est Shir HaShirim. Donc, alors, revenons-nous. Ishakin imenishkotinu sitovim dodecha miyayin. Pirouche, l'explication de cela. Shemedaber derech machal. Cela est parlé par comparaison. Kemo shemedaberet amalka la melech. C'est comme à la manière dont la reine parle au roi. Ou mefaresh rachizal. Et l'explication de Rachid que vous avez dans l'autre colonne, c'est de dire kemo shenoshe hehatan lehatala. Comme elle souhaite le baiser comme le baiser qui vient du fiancé à la fiancée, mais ça veut dire en réalité du mari à sa femme, de l'époux à son épouse, au moment du mariage. PLP, bouche à bouche, Alkan Neshome. Jusque-là, c'est la situation de Rachid. Voilà la question que le Van de Vilna avait expliquée. N'y aurait-il pas une répétition inutile? À partir du moment où on parle du baiser du Hatan à la Kala, ça veut bien dire bouche à bouche, bout de. Bon, réanimation. D'autant plus que le verset dit Ishakeni Mineshikot Piu. N'y aurait-il pas donc une répétition de Rashi entre l'expression Noshek Echatan Nehakala et puis PLP, bouche à bouche? Alors il explique comme ça. Vein, et voilà ce qu'il faut comprendre. Chez Kolmakom, chez Katoum Vevar, en tout endroit où le mot de bouche, Pi, P, est écrit avec un Vav, Piv, c'est clair, vous voulez que j'écrive?
Non, c'est clair.
Bon, Piv, vous la chose Achav. C'est au masculin. Ou béhé, mais si c'est écrit avec un hé, piha, alors c'est au féminin. Ou nekeva. Keyadouar, comme c'est connu, sous-entendu, de la grammaire. Le kan ketif piou, mais ici il est écrit piou, zaharun keva, masculin et féminin à la fois, c'est ce que nous avons vu rapidement hier, beyachad, en même temps, vezeu kavanat rashi. Et c'est ça l'intention de Rashi. Kechatan el kala, PLP. Comme l'époux à son épouse, de bouche à bouche. Et là, c'est très important, cet accent qui a été mis sur la relation de la bouche à la bouche. La définition de l'identité humaine dans le langage de la Torah, c'est l'être capable de parler. Hay hamdaber. Le baiser de la bouche, c'est le baiser de la communication de nefesh à nefesh. Le P exprime le nefesh. La personne de l'homme a pour caractéristique essentielle de s'exprimer par la parole. Et c'est donc l'organe du chant de la parole qui est en question dans ce baiser. Il y a la hibouk, il y a le corps qui embrasse le corps, il y a le fait qu'on peut embrasser par la bouche la main, ou le front, ou la joue, mais le fait que la bouche embrasse la bouche, ça c'est la rencontre de ces deux shirim. Vous voyez la nuance que le Gaon de Vilna, dans la littéralité même des expressions qu'il emploie, veut mettre en évidence. Et après nous allons voir ce que ça veut dire la fin du verset « Kitovim Dodecham Yahin ». Alors je vais simplement vous montrer par allusion, le Gaon de Vilna ici en préoccupation des choses très profondes, si j'ose dire, excusez-moi du terme, mais c'est pas une blague, c'est vraiment très, très profond. Voilà, de quoi il s'agit. Très bien. Le mot bouche, c'est le mot paix. Okay, que j'ai comme ça, je vais voir tout à l'heure. Et lorsque ce mot est. Vous m'entendez? Le mot paix. Paix. Okay. Lorsque ce mot de paix est à l'état construit, c'est pi. Pi. La bouche de pi. Alors la bouche de lui, c'est pi. La bouche d'elle, c'est pi. Oui. Et nous avons le mot pi ou. C'est ce que le Père a expliqué.
Qui est le deux.
Elle est lui.
Ces lettres que nous avons dans le mot de piou, c'est you, ke, wa. Vous voyez à quoi ça fait lui.
C'est une partie du tétragramme.
Complètement.
C'est le tétragramme.
Ça y est, c'est clair. Ça veut dire, le Gaon, comme vous le savez, est un des plus grands kabbalistes, j'allais dire vivant, mais attends, l'enseignement est vivant. Et attention, ne pas perdre des choses mystiques. Et il veut faire allusion à ceci. C'est que c'est l'acte d'unité du nom, le nom de l'être, qui est le nom de Dieu, bien, s'unifie dans cette expérience de Pi-ou-Pi-ha. Ça y est, clair? Bon. Simplement par allusion, mais voyez à quoi ça fait à lui. C'est un thème qui est enseigné, et par le Gaon et par toute son école, à propos des modifications de la liturgie du Shabbat. Le vendredi soir, Ve'yanochu ba, elle. Le Shabbat matin, Ve'yanochu bo, lui. Et le Shabbat après-midi, Ata'echa, Ve'shimcha'echa, Ve'vikamecha, Ki'israel bo'echa, Ve'yanochu bam. Une dialectique de l'unité de l'être, de la Havaya, à travers la liturgie du Shabbat. Erev Shabbat, c'est elle. Shabbat matin, c'est lui. Et le Shabbat après-midi, on est Shabbat, c'est eux. Bon, ça, je vous renvoie à ce thème de la liturgie pour comprendre bien cela. Et l'unité du nom. Simplement, je vous donne deux correspondances. Le mot de Echad, comme vous le savez, a trouvé la numérique 13. Vous savez cela ? Oui. Les dimensions de l'unité, c'est le déploiement des 13 attributs de l'unité. Le mot de Ahava a la même valeur numérique, 13. Okay. Une indication qui a été donnée par Harry et son école, l'amour. Ahava et amour. Echad 1 a une correspondance de gamatria. Ahava, c'est l'amour. Exact. Alors, je vous cite un enseignement de l'école du Hari. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve Ahavta et Hashem Elokeinu. Ça veut dire qu'il y a Echad et Ahava, alors il y a Hashem Avaya. Echad c'est 13, Ahava c'est 13, le Hashem Avaya c'est 26. Oui,
la puissance,
oui. Ça veut dire qu'il y a dans cet acte d'amour le faire de l'unité. C'est-à-dire, l'unité de la Havaya se construit. Je vais essayer de dire ça un peu de façon allusive. Le Créateur est le Dieu un, par essence. Il crée un monde qui est en multiplicité de dimensions d'être. Et ce qui se passe dans l'histoire du monde, ça vous avez deviné par vous-même, c'est construire cette unité de telle sorte d'être à l'image du Créateur, mettez image entre guillemets. J'ai lu une fois dans Bergson, il faut construire le Echad du monde de telle sorte qu'il y ait projet du Créateur réussi. Le Hachem Echad a créé un monde avec 13 dimensions éparses. Le rôle de la créature, c'est de venir. Quel est le levier? C'est la Ahou. Vous voyez, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Quel est notre modèle? Hachem Echad. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Et tu aimeras. C'est en aimant qu'on construit le monde un. C'est très simple, mais c'est l'essentiel. Voilà l'objet de tout le message de la prophétie hébraïque. Je veux dire ceci, je reviens à une petite phrase de tout à l'heure. Je crois qu'un de nos différends avec la perspective chrétienne, c'est d'avoir opposé l'amour et la loi. C'est, là, je donne absolument raison à Bernard-Henri Lévy. Je n'ai pas encore en mémoire en détail ce qu'il dit, mais dans sa thèse, grosso modo, c'est qu'il y a eu un capotage de la manière dont l'Église chrétienne a véhiculé le message biblique. D'avoir opposé l'amour et la loi, ça a mené l'Occident à un échec grave, d'avoir dissocié la religion, la moralité, la politique, l'amour et la loi. Et nous savons que la loi ne peut réussir que si elle est portée par l'amour. Mais l'amour sans la loi va à l'échec, comme la loi sans l'amour va à l'échec. Bien, alors je reviens à ce problème. J'ai lu dans Bergson qu'il appelle, il définit le monde, c'est très beau, et c'est pas faux d'ailleurs, le monde est une machine à faire des dieux. « Ani amarti elokim atem, achen ke adam temutun » verset des psaumes. Je ne traduis pas, parce que c'est une parenthèse, simplement pour ceux qui connaissent déjà ce thème. Je ne vais pas ouvrir trop de parenthèses. Mais je crois qu'il faudrait y substituer, lui, ajouter la formule suivante. C'est que le monde est une histoire d'apprentissage d'amour. Et que le passage dans ce monde-ci, c'est pour nous obliger à apprendre à aimer. Et une fois qu'on a réussi, alors on est appelé, au temps du Fils de l'homme, au temps du huitième jour, face à face. Je dirais, c'est pas la peine d'analyser, mais enfin, si vous voulez très sobrement, l'autre par excellence, c'est ce que les philosophes de l'altérité ne veulent pas accepter de voir, l'autre par excellence, c'est Dieu pour l'homme et l'homme pour Dieu. Et tous les autres, tous les autres autrui, c'est des véhicules provisoires où se distribue la relation d'altérité fondamentale, qui est entre Dieu et l'homme.
Mais dès qu'il y a intersection, il y a mort qui suit après. Je prends l'exemple de Rachel et de Jacob. Je prends l'exemple de David et de Bathsheba. Il y a eu mort, il y a eu l'enfant qui est mort. Et puis c'est après qu'il y a eu
Jacob. Bon, ça c'est un autre thème.
Alors, donc c'est éphémère.
Non. Ça, c'est
l'intersection est éphémère.
Non, c'est un autre thème, tout à fait autre. Vous avez raison de poser la question, mais je voudrais l'éclairer. C'est que lorsqu'il n'y a que approximation, c'est bloqué. Mais cet être qui est mort parce qu'il n'a été qu'approximatif, dans la cohérence biblique, a sa propre destinée après. Comprenez ? La question que vous posez doit être posée à l'intérieur de la cohérence biblique. L'enterrement, ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'autre chose.
Okay. Ouais,
tenez, nous récupérons une espérance totale. Okay. Alors, a priori, toutes les inquiétudes trouvent leur réponse, mais il faut mettre chaque chose dans son endroit. Je reprends ce que je disais. C'est que la relation d'altérité fondamentale qu'il y a à résoudre à faire réussir, c'est la relation entre le Créateur et la créature, et ça veut dire très littéralement entre l'homme et Dieu. Mais cette relation, tant que l'homme n'est pas réussi, est dangereuse. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Tant qu'on n'est pas arrivé à la réussite de l'histoire humaine, de cet apprentissage dont j'ai parlé, cette relation est catastrophique pour l'homme. On est appelé en jugement avant d'avoir préparé l'examen, avant d'avoir réussi à préparer un examen, une copie qui aurait une bonne note. Vous comprenez l'exemple que je prends. Et c'est pourquoi toutes les rencontres prématurées, anticipées, vont à l'échec. Et par conséquent, a priori, cette relation à laquelle nous sommes appelés, c'est la relation du monde à venir. Et nous passons par un temps de ce monde-ci qui est un temps d'apprentissage. Et je rejoins là une Mishnah du Talmud Torah de Pirkei Avot. Prépare-toi dans le vestibule avant d'entrer dans le palais. Mais c'est au palais que je suis invité, pas au vestibule. Est-ce que c'est bien clair? Vous comprenez à quoi je fais allusion? Or, la raison pour laquelle nous sommes en train de passer dans l'histoire une sorte d'examen. Es-tu capable d'être l'autre que Dieu? Sans danger pour toi. Et sans risque de chilul Hashem, de blasphème pour lui. Tant que tu n'es pas civilisé, dans ce sens-là, je sais pas, je cherche un mot, mais vous comprenez l'idée. Tant que tu n'es pas sage, oui. Tant que tu es encore apprenti, il y a danger réciproque. La gloire de Dieu risque d'être atteinte par le blasphème et la fragilité de ta fragilité de créature risque d'être écrasée parce que tu n'es pas encore prêt. Et alors cet apprentissage d'amour est distribué dans toutes les relations d'altérité horizontales que nous vivons dans la vie de ce monde. C'est-à-dire, c'est toujours, il y a toujours qu'une seule relation fondamentale d'altérité, le créateur, la créature. Toutes les autres ne sont qu'un apprentissage de celle-là. Et lorsqu'on a réussi à apprendre cela, alors on est appelé à la relation qui importe, c'est-à-dire entre l'être vrai et moi devenu être vrai. En attendant, je suis en examen de passage. Je dirais ceci, puisque nous parlons de Shivaji. Ça, je vous dis, je n'ai pas de texte à vous citer, mais c'est ce qui ressort de mon expérience personnelle de cette étude. Je crois que l'amour entre l'homme et la femme n'est lui-même qu'un cas particulier de l'amour entre le frère et le frère, qui n'est lui-même que l'apprentissage de l'amour entre l'homme et l'homme. Vous voyez que quel est le programme. C'est pourquoi cette dimension de la mise à l'épreuve de l'amour entre le frère et le frère est plus importante dans la loi publique que la mise à l'épreuve de l'amour entre l'homme et la femme, qui n'est qu'un cas particulier d'apprentissage de l'amour entre le frère et le frère. Vous rappelez du thème chez les patriarches. Tant qu'il n'arrive pas à dire « tu es ma sœur, tu es mon frère », c'est pas réussi. Vous vous rappelez de ça ? C'est-à-dire la relation conjugale époux-épouse doit mener à la relation frère-sœur, sœur-frère, qui est la relation frère-frère. C'est pourquoi Rabbi Akiva dit « Ve'avta le'acha kamocha zekra galot la Torah ». Il n'a pas dit « Ve'avta ishtecha kamocha ». Ça, le Talmud va dire « ça va de soi ». Celui pour qui sa femme, c'est pas comme lui-même, lui, c'est pas comme sa femme, c'est pas encore un homme. Bien, il est encore mâle et femelle, ça c'est animal. La guerre des sexes. Vous voyez de quoi il s'agit. Voilà ce que je veux préciser. On a une citation dans la Gemara de Kiddushin, à peu près dans les pages 30. Et ça devient une loi du Shulchanahu, une loi de la législation. C'est que le temps des fiançailles est très important, et il faut que le fiancé connaisse la fiancée, pas dans le sens biblique, hein, dans le sens fiançailles, et que la fiancée connaisse le fiancé, pour pas qu'après le mariage, il dise « Ah, mais c'était pas elle !» Vous comprenez ce que ça veut dire. Et la Gemara ajoute « Et la Torah a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voyez comment est la citation. Ça veut dire que la relation du mari à la femme et de la femme au mari est un cas particulier du « tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le compagnonnage par excellence, c'est l'homme et sa femme, la femme et son mari. Mais c'est le cas particulier d'apprentissage de la relation à autrui, l'autrui étant l'autre créature, l'autre homme, le frère, le réa. Okay? Et ça, jusque-là, c'est clair. Ça ressort de l'organisation des sources que je vous cite. Ce que j'ajoute, vraiment, à titre purement personnel, c'est que tout se passe comme si que tous ces amours auxquels nous sommes en apprentissage dans l'histoire de la vie, ce n'est qu'un apprentissage de l'amour entre Dieu et sa créature. C'est pourquoi, c'est en même temps vrai ces deux choses que je veux dire, c'est très important l'amour entre l'homme et la femme et entre le frère et le frère. Mais par rapport à l'absolu, c'est encore contingent. C'est pas grave. Mais les deux choses sont vraies. C'est très important parce que c'est cet apprentissage-là par lequel la révélation biblique nous fait passer. Mais finalement, l'objectif est beaucoup plus absolu que cela. C'est d'être face à face avec l'être. Et je vous ai dit un peu sous forme de blague, mais peut-être c'est pas tellement une blague. Toute l'histoire de la vie, c'est un examen pour passer la licence de l'être. Mais l'être est l'apostrophe. Et il y a des gens qui sont licenciés et d'autres qui sont licenciés. Parce qu'ils ont été licenciés. Je crois donc qu'on pourrait relier corollairement à cette phrase de Bergson, l'univers est une machine à faire des dieux, je crois que c'est dans l'évolution créatrice, sinon c'est dans matière et mémoire, mais enfin c'est dans Bergson. Et cette formule, l'univers est une machine à apprendre à aimer. Quand on a réussi cet examen, alors Pessah arrive, les fiançailles, le mariage, c'est ce langage-là qu'emploie le commentateur sur le Shirashi. Nous continuons dans le texte. Kitovim dodecha miyai. Car ton amour, dans l'expérience concrète, est meilleur que le vin. Pirouche. Sha'ahavatcha gadol alai yoter mi'ahavat hayayim. Le premier sens, simple, fondamental, c'est que l'amour que j'ai de toi est plus grand que l'amour que j'ai du vin. Et le vin, ici, est le symbole de la connaissance occulte, de la connaissance secrète. Vous connaissez cette phrase du Talmud, Nichnas Yahin, Yassa Sod. Mais Yahin en lui-même, c'est Sod. Yahin, c'est la même valeur numérique que Sod. Sod, c'est le secret. Vous voyez, j'ai la connaissance de ce dont il s'agit, parce que les porte-paroles ont transmis jusqu'à moi. Mais cette connaissance, si importante qu'elle soit, ce n'est pas l'essentiel. Je préfère ce dont cette connaissance parle, la réalité de la rencontre. Ça y est, c'est clair ? Voilà, c'est l'essentiel de ce que veut dire le Gaon ici, et je continue. « Ve'ayam, kishte diberon tarichonot » Et voilà de quoi il s'agit. Les deux premières paroles, les 10 paroles, les 10 commandements. Les pires gouvourages, nous les avons entendus directement de Dieu lui-même. C'était la révélation en direct. Ve Ashea Mepi Moshe. Les 8 autres commandements, Moïse en était le porte-parole. Ve la Ren Katoud Ve Ashte Diverot. C'est pourquoi il est écrit la formulation des deux premiers commandements. Je suis Hashem Elokecha, Ani Anochi Hashem Elokecha, Elohi Elecha Elokim Acherim. C'est écrit Lashon Medaber Ba'ado. Face à face, vis-à-vis, dialogue. Je suis Hashem, ton Dieu. Tu n'auras pas, il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu. Al-Malal, sur ma part. Mais les 8 autres commandements. Asher Tzivecha Hashem Elokecha. C'est à la troisième personne. C'est Moïse qui parle en parlant de Dieu. Et tu pratiqueras le Shabbat que t'a ordonné Hashem, ton Dieu. Vous voyez ? Et c'est un peu ce que nous avons trouvé là. Il y a la chose Nochar, le dialogue vis-à-vis, et la chose Nistar, lorsqu'on parle à la troisième personne. Il Moshe Amar et Israël, ni Pierre. C'est les 8 autres commandements, c'est Moïse qui les a dit à Israël au nom de Dieu. Mais les 2 commandements, c'est Israël qui les a entendus directement. Et c'est à ça, dit le Gaon de Vilna, que fait allusion ce que dit ce verset. J'ai la connaissance par tierce personne, authentique, mais c'est une connaissance médiane. Ce que j'aime mieux, c'est ce qu'il y a eu une fois, tu m'as parlé face à face. En préfiguration, je sais très bien que c'est le commencement, dans ce commencement, m'a été dévoilé ce qu'il y aura à la fin. Et après, on retombe au bas de la montagne, et il faut faire à travers toute l'histoire cette ascension pour y arriver à la fin par son propre mérite. Au début, c'était cadeau, voilà ce qui t'attend. Et puis, vous remarquez le rythme du récit. Le Sinaï, c'est un sommet. Et puis, on a eu expérience de cela. Et puis, juste après, on retombe en bas, point de départ d'une ascension qui doit nous mener au 8e jour. Et quelle est la différence ? C'est que le Sinaï, c'était cadeau. Et puis, ce cadeau, je l'ai dans ma mémoire, je sais que c'est ça qui importe le plus, mais il y a toute l'histoire pour le reconquérir comme acquis, et pas seulement comme acquis mérité, et pas seulement comme cadeau. Il y a dans l'école de la Kouk, on a enseigné ce chidouche à propos de Naase Venishma. Quand les Hébreux ont dit « nous ferons et nous entendrons, nous ferons et nous comprendrons », indépendamment de tous les enseignements vrais qui ont été dits là-dessus, on a enseigné la manière suivante. Au Sinaï, nous avons entendu sans que nous ayons rien fait pour ça. Ça nous a été donné cadeau, Matan Torah, le don de la Torah. Maintenant, Naase, nous allons faire par nous-mêmes et entendre après en ayant le mérite d'avoir fait par nous-mêmes, c'est-à-dire de l'avoir acquis par nous-mêmes. Je ici ouvrir une parenthèse, dans cette dialectique d'autorité du créateur à la créature, j'ai fait allusion hier matin aussi, l'intention du créateur, c'est de créer l'autre que lui, qui mérite d'être par lui-même, qui existe vraiment au niveau adulte, majeur et vacciné, après les 26 générations, vous vous rappelez de cela, les 26 générations de la grâce, ce n'est que la première étape. Et tant que je n'ai reçu l'être que comme cadeau non acquis, non mérité, alors c'est pas encore à moi vraiment. Ce n'est à moi que par délégation de cadeau. Et l'intention du Créateur n'est pas encore accomplie. Vous comprenez ? Et l'intention du Créateur n'est accomplie que quand j'ai commencé à exister par moi-même. C'est ça qu'il a voulu. C'est un vrai autrui qui veut, et non pas un autrui infantile, et non pas un autrui rapetissé, et non pas un autrui, comment dire,
altéré.
Mais non pas un autrui, comment dire, un ersatz d'autrui. Un autrui qui n'existe qu'à la manière d'un enfant dans les jupons de sa mère. Vous comprenez ? Vous avez entendu parler peut-être d'un très grand enseignant qui a eu la génération présente, qui s'appelait Chouchami.
Oui.
Vous citez un enseignant de, je n'ose pas l'appeler le Rav Chouchami, mais enfin du grand Chouchami. Disait ceci, qu'est-ce que c'est que la création ? C'est comme si une mère a pris son enfant et l'a mis loin d'elle pour lui apprendre à marcher. Alors il y a deux possibilités. Et il voulait, voilà, nous apprendre, nous faire comprendre quelle est toute cette sensibilité de Dieu par rapport à la créature, à la manière de ce que peut ressentir une mère qui met son bébé fragile.